France Culture.
Le journal de la rédaction, tout de suite présenté par Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. Direction le Maroc, dès le début de ce journal où des milliers de personnes ont célébré une victoire hier. Le Sahara occidental va passer sous autonomie marocaine après un vote du Conseil de sécurité de l'ONU. En Tanzanie, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan remporte l'élection avec 98% des votes. L'opposition dénonce une parodie de la démocratie. En France, le PS se félicite du retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune, après l'adoption d'un amendement hier à l'Assemblée qui transforme l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce la fin du plus vieux conflit d'Afrique ? Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution sur le Sahara occidental, un texte proposé par les États-Unis et soutenu par les grandes puissances, y compris la Russie. Il prévoit une autonomie sous contrôle marocain de ce territoire, riche en phosphate, disputé entre l'Algérie et le Maroc depuis un demi-siècle. Des milliers de Marocains ont célébré la nouvelle dans les rues hier. On retrouve à Casablanca notre correspondant, Cédric Ralfi.
Un moment historique pour les Marocains qui attendaient ça depuis le retrait de l'Espagne du Sahara occidental en 1975. 50 ans de conflit pourraient ainsi prendre fin. Dans le cadre de l'autonomie régionale sous souveraineté marocaine, le roi Mohamed VI s'est immédiatement adressé à la nation.
Après 50 ans de sacrifices, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement le dossier de ce conflit artificiel par une solution consensuelle fondée sur l'initiative d'autonomie.
Ce matin, les Marocains se sont réveillés heureux. Pour Ahmed, les Sahraouis sont des Marocains justement comme les autres.
Bien sûr, comme tout le monde, comme les Marocains, comme tout le monde, il n'y a pas de distinction. Ils peuvent clore définitivement ce dossier qui a duré plus de 50 ans.
Rachid, lui, est retraité. Il a toujours connu ce conflit. Il salue l'avancée vers une solution pacifique.
Enfin, je crois que justice est rendue pour une résolution raisonnable. Logique.
Proposé en 2007, le plan d'autonomie pour le Sahara occidental doit à présent être actualisé, puis présenté. Il sera enfin négocié dans le cadre onusien.
Une parodie de la démocratie dénoncée par l'opposition. Après 3 jours de violence en Tanzanie, en Afrique de l'Est, la présidente sortante Samia Suluhu Hassan remporte l'élection avec un score écrasant de 98% des voix. Aucun candidat de l'opposition n'avait pu se présenter face à elle mercredi. Depuis, Internet est coupé, les transports publics sont à l'arrêt. La répression de la contestation aurait fait 700 morts d'après la principale formation d'opposition. Les autorités démentent. Élodie Goulesque, correspondante sur place pour France Culture.
Eh bien, écoutez, le résultat a été annoncé sans surprise. Ce matin, 97,6% des voix pour Samia Suluhu Hassan. Un chiffre qui n'est pas si surprenant puisque je vous rappelle que la présidente sortante avait écarté toute opposition crédible depuis des mois. Le taux de participation serait de plus de 85%. Un chiffre cette fois-ci difficilement crédible. Les observateurs internationaux rapportaient mercredi, jour du vote, un taux de participation extrêmement faible. Les urnes que j'ai pu voir moi-même étaient effectivement plutôt vides. Et vous le savez, depuis 3 jours, il y a d'importants mouvements de contestation dans le pays qui ont commencé dès mercredi. Un manifestant me disait aujourd'hui avoir le cœur brisé à l'annonce de ces résultats. Je vous rappelle que même si elle brillait un deuxième mandat, c'est la première fois que la présidente Samia est élue par les urnes. En 2021, elle avait accédé au pouvoir en son statut de vice-présidente après le décès du chef d'État de l'époque, John Magufuli. Pour l'instant, Dar es Salaam reste calme, mais certaines ambassades ont d'ores et déjà recommandé à leurs employés d'éviter tout déplacement non essentiel dans la ville.
Élodie Goulesque pour France Culture. En Pologne, l'alcool tue 2 fois plus que la moyenne en Europe. Les autorités commencent péniblement à s'attaquer au problème. Ce soir, dans certains quartiers du centre de Varsovie, la capitale, interdiction d'acheter de l'alcool entre 22h et 6h du matin. Une mesure saluée, mais jugée insuffisante pour de nombreux habitants. Un reportage sur place d'Adrien Sarlat.
2000 euros de recettes, c'est le montant minimum qu'encaisse Bartek en un samedi soir dans son magasin d'alcool ouvert 24 heures sur 24. Pourtant, lorsque la mairie de Varsovie a invité les habitants à se prononcer sur l'interdiction de vendre de l'alcool entre 22h et 6h, il a fait partie des 80% qui ont voté pour.
Il y a toujours plein d'agitation autour des magasins d'alcool de nuit et beaucoup de chaos, surtout les week-ends, avec les boîtes de nuit. Cette limitation vise à ce que les gens n'errent pas dans le quartier, complètement ivres, en cherchant la bagarre.
Avec son association, Kuba fait pression sur la mairie depuis 3 ans pour la faire plier sur la question, mais il n'est pas satisfait du projet pilote qui entre en vigueur ce soir, car il ne concerne que 2 quartiers sur les 18 de la capitale.
Le problème, c'est que les personnes dépendantes à l'alcool dans les quartiers concernés iront dans les quartiers voisins où les mesures ne s'appliquent pas.
Au-delà de la tranquillité des riverains, ces restrictions devraient aussi répondre à un enjeu de santé publique dans un pays où le nombre de morts par cirrhose a été multiplié par 4 ces 5 dernières années.
J'espère que la loi va bientôt changer pour permettre d'étendre ces restrictions jusqu'au matin. Car on a un énorme problème avec les petites bouteilles d'alcool de moins de 10 centilitres. Il y en a au moins 1 million qui sont vendues chaque jour entre 6 et 9 heures du matin, avant que les gens aient au travail.
La mairie de Varsovie a promis d'étendre la mesure à toute la ville dès le mois de juin. Au total, la Pologne compte 900 000 personnes dépendantes à l'alcool.
En France, la taxe Zuckmann sur la taxation des ultra-riches a été rejetée par l'Assemblée nationale hier, sans surprise. La version allégée proposée par les socialistes aussi, ce qui a provoqué la colère de la gauche. La France insoumise appelle à la censure, le PS au compromis, notamment avec l'adoption de l'amendement qui vise à transformer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, en impôt sur la fortune improductive. Le texte a été adopté grâce à une alliance entre le PS, le Modem et le Rassemblement national. Bonjour Mercia Nezic.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut parler du retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune ?
Estelle, vous le disiez, les socialistes n'ont pas réussi à faire adopter la taxe Zuckmann, mais le député PS Philippe Brun s'est effectivement félicité du rétablissement de l'impôt sur la fortune, une taxe qui a été supprimée en 2018 par Emmanuel Macron. L'impôt sur la fortune improductive en constitue une version remaniée, explique l'économiste Philippe Crevel, directeur général du Cercle de l'épargne.
On va prendre à la fois donc les biens immobiliers, mais tout en faisant un abattement d'1 million d'euros sur la résidence principale. Et on va prendre également des symboles de la fortune, les avions, les yachts, mais également les voitures, également les bijoux. Et puis, on rajoute les biens financiers. Alors, pas tous. C'est là où il y a une différence avec l'ISF. C'est qu'on va prendre des biens financiers qui vont être jugés improductifs. C'est pour ça que moi j'appelle ça en fait un impôt sur la fortune avec un nom qui semble distinguer ce qui est productif et improductif, mais on voit bien que la frontière est ténue.
Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, dénonce une mesure qui va taxer l'épargne des Français. La gauche, hors PS, s'y oppose aussi, mais pour des raisons différentes. On a affaibli l'impôt sur la fortune immobilière sans même réintégrer l'ISF, a déclaré l'insoumis Éric Coquerel, qui préside la commission des finances de l'Assemblée nationale. Prisca Thévenon, députée Ensemble pour la République et ancienne porte-parole du gouvernement, a pour sa part assimilé le texte à une taxe inventée par Marine Le Pen elle-même. D'ailleurs, le Rassemblement national se félicite de son côté de l'adoption d'un impôt sur la fortune financière inspiré de son programme.
Merci, merci Anezic. Autre demande du PS, le dégel des pensions de retraite et des minima sociaux en 2026. Dans l'espoir d'échapper à la censure, Sébastien Lecornu s'y est dit favorable. Une coalition des oppositions de la gauche au RN avait déjà voté en ce sens en commission. Et c'est la fin d'une aventure féministe de plus de 60 ans. Hier soir, la maternité des Lilas en région parisienne a fermé ses portes, symbole du féminisme mais aussi du sort des maternités en France. En 25 ans, elles sont passées de 700 à 460. Jeudi soir, sur le parvis de la maternité des Lilas, les patientes se sont mobilisées avec le personnel pour un dernier adieu à cette maternité où l'on accompagnait les femmes comme nulle part ailleurs. Mathilde Cariou a tendu son micro à Céline Le Négaret, sage-femme aux Lilas depuis plus de 30 ans.
Ça m'est arrivé, par exemple, de me mettre moi à 4 pattes sous une table de naissance pour aller voir une maman qui allait accoucher, qui était assise sur un ballon face à cette table et que la seule façon de voir son bébé sortir pour moi, c'était de me glisser sous la table de naissance. Enfin, j'ai rarement vu ça, c'est complètement anecdotique, mais c'est juste pour dire que, en fait, on a vraiment à cœur de s'adapter aux besoins plutôt que de demander aux femmes de s'adapter à des protocoles médicaux. Évidemment, s'il y a une médicalisation, on fait comme partout, on ne va pas ne pas intervenir. si la santé de la femme et de l'enfant sont en jeu. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas de nécessité de médicalisation, on va essayer de s'adapter à ses besoins.
Céline Le Négaret, qui était sage-femme au Lila, comme vous, Chantal Birman, bonjour.
Bonjour.
Avec nous en studio, vous avez été sage-femme clinicienne à la maternité des Lila pendant 40 ans. Vous avez également participé à l'organisation des mobilisations contre la fermeture. On vient d'entendre une des particularités des Lila. Qu'est-ce que symbolisait cette maternité ?
Essentiellement, la liberté qui permettait aux femmes de découvrir leur force intérieure qui, une fois qu'elle avait été découverte, les rendait libres, fortes, non soumises.
Et c'était un établissement à but non lucratif. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux personnes vulnérables et précaires, sa fermeture ?
Ben, tout le monde pouvait être pris en charge, sans avoir évidemment rien à payer, prise en charge dans ce que chaque personne était. Or, donner cette forme, on va dire, de bonheur, est pas forcément tellement répandue pour des gens qui ne sont pas privilégiés dans la société.
Et est-ce que aujourd'hui on aurait pu conserver la maternité des Lila? Pourquoi elle a fermé en réalité?
Elle a fermé réellement au fond, par volonté politique. Et je ne dirais même pas que c'est des problèmes financiers, etc., puisqu'on sait bien que quand on veut, on porte les choses. Et cette volonté politique vient directement de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la force des femmes. À partir du moment où les femmes avaient cette révélation à l'intérieur d'elles au moment de l'accouchement, c'était une force qu'elles avaient pour toujours dans leur vie. Et quoi qu'il se passe dans cette vie, elles avaient eu cette révélation-là. Et pour toujours, on en faisait des combattantes, en fait. Et c'est ce combat-là qu'il a été question de nier et d'éteindre pour toujours.
Et quel héritage on peut garder de son fonctionnement ? Est-ce que ce serait un défi pour les maternités en France aujourd'hui de garder l'engagement de la maternité des Lila ?
Alors d'abord, je peux dire que c'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est tout un historique, c'est toute une histoire, c'est tout un accueil différent. Et donc, n'importe quelle maternité ne peut pas. Par contre, il y a là un savoir-faire, il y a là une façon de se laisser atteindre par les femmes. Et quand elles sont en situation de vulnérabilité, parce que ce soit l'accouchement ou l'avortement, ce sont pour des femmes des situations de vulnérabilité. Et donc, du personnel qui se met dans cette même position psychologique, c'est très très rare. En général, le personnel, il est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du savoir. Là, le savoir, si j'ose dire, il vient en cas de pathologie, évidemment, mais tout ce qui est physiologique, comme l'a très bien dit Céline, ça nous amène à être proche, le maximum de proximité avec les femmes. Ça, c'est vraiment un savoir-faire propre à cette équipe. Et un savoir-faire sur tous les plans, politique, idéologique, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, dans toutes ses différences, et le rendre fort avec toutes ses différences, et faire de ces différences, si possible, des forces.
Et c'est un symbole donc du féminisme, donc ça, c'est du savoir-faire aussi, mais du sort des maternités en France qui ferme définitivement pour certaines entre 2023 et 2024. 19 maternités ont définitivement fermé. 15 d'entre elles, c'était des petites maternités comme celle des Lila. Est-ce qu'on peut lier la fermeture des maternités à la hausse du taux de mortalité infantile qui ne fait qu'augmenter en France ?
Alors On peut dire que le taux, il y a deux choses. En France, il y a actuellement la baisse du taux de natalité, qui là est plutôt due, on va dire, à une forme de désespérance et à une non-croyance en l'avenir. Et ça, c'est le résultat de ce type de décision. C'est-à-dire que quand vous avez été accompagné ou quand vous avez une idéologie d'accompagnement, et donc la petite maternité, c'est forcément une petite équipe, ou la maternité d'Iliane n'était pas une petite maternité, c'est une maternité largement moyenne, hein, puisqu'on faisait avait jusqu'à 1700 accouchements par an, voire un peu plus. Donc, on est plutôt sur une maternité moyenne. Et les maternités moyennes sont en train de fermer. Donc, il ne reste plus que des énormes maternités où, effectivement, les accouchements se font les uns derrière les autres. On est donc dans quelque chose qui est de l'ordre de l'efficacité financière maximum, c'est-à-dire faire un maximum de soins à un minimum de personnel.
Oui, ce qu'on juge d'usine à bébé, ce qui est estimé comme ça. Merci beaucoup Chantal Birman d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous avez été sage-femme clinicienne à la maternité d'Elila pendant 40 ans. Et merci à Loïse Guérin pour la préparation de l'interview. Et pour aller plus loin, le podcast de Culture de l'Info d'hier sur le sort des maternités en France est disponible sur l'application Radio France et notre site franceculture.fr. C'est la fin de ce journal réalisé par Antoine Bouchet. Pardon.